Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de voixpoétiques.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétiques.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer l'univers fascinant de Gérard de Nerval, poète et alchimiste de la parole, dont l'œuvre incarne cette quête mystérieuse où la transmutation des métaux rejoint celle du verbe. Il existe des poètes dont l'œuvre ressemble à un grimoire chiffré, où chaque vers dissimule une clé, où chaque image recèle un secret. Gérard de Nerval appartient à cette lignée rare des créateurs qui ont fait de leur écriture un laboratoire alchimique, un athanor où se fondent les symboles anciens et les visions personnelles. Poète du rêve éveillé et de la mémoire ancestrale, Nerval a tissé entre hermétisme et lyrisme un chemin singulier, celui d'une transmutation de l'âme par le langage. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans cet espace sacré où l'alchimie spirituelle et la création poétique ne font qu'un, révélant comment la quête du grand œuvre traverse toute son inspiration. Pour comprendre la dimension alchimique de l'œuvre nervalienne, il convient d'abord de saisir la profondeur de son engagement dans les traditions ésotériques. Gérard de Nerval n'était pas un simple amateur de curiosités occultes, un collectionneur de symboles exotiques. Son intérêt pour l'hermétisme, la cabale, le néoplatonisme et l'alchimie spirituelle relevait d'une authentique quête de connaissances, d'une soif de percer le voile des apparences pour atteindre la réalité cachée des choses. Dès sa jeunesse, Nerval fréquente les milieux illuministes parisiens. Il découvre les œuvres de Swedenborg, ce visionnaire suédois qui affirmait communiquer avec les anges et décrivait les correspondances entre le monde visible et l'invisible. Cette notion de correspondance universelle devient centrale dans sa pensée. Le monde matériel n'est pas une réalité close sur elle-même, mais plutôt le reflet d'un ordre supérieur. Un miroir où se reflètent les vérités éternelles. Chaque pierre, chaque plante, chaque étoile possède une signature secrète, un langage que seuls les initiés peuvent déchiffrer. Cette vision trouve son prolongement dans la tradition alchimique occidentale, héritière d'Hermès Trismégiste, ce mystérieux sage alexandrin dont la pensée irrigue toute la philosophie occulte européenne. L'alchimie que Nerval embrasse n'est pas celle des charlatans courant après l'or vulgaire. C'est l'alchimie intérieure, spirituelle, celle qui vise la transmutation de l'être humain lui-même, sa purification progressive, son élévation vers une conscience supérieure. Le grand œuvre alchimique devient métaphore chez lui et réalité d'un cheminement initiatique où l'âme traverse ses nuits obscures pour renaître transformée, comme le phénix surgissant de ses cendres. Nerval plonge également dans l'étude de la Kabbale hébraïque, cette mystique juive où les lettres de l'alphabet divin recèle les secrets de la création. Il y découvre l'idée que le langage n'est pas un simple outil de communication, mais une force créatrice, un pouvoir magique capable d'agir sur la réalité. Les noms divins, les combinaisons de lettres, les permutations mystiques ouvrent des portes vers l'invisible. Cette conception sacrée du verbe nourrit profondément sa poétique. Pour lui, écrire n'est jamais un acte anodin ou purement esthétique. C'est un geste rituel, une opération magique où le poète alchimiste manipule les substances subtiles du langage pour en extraire la quintessence. Au cœur de la démarche alchimique nervalienne se trouve une intuition fondamentale, celle d'une unité originelle brisée, d'une harmonie primordiale dont l'humanité a été exilée. Cette nostalgie de l'unité traverse l'ensemble de l'histoire de la pensée ésotérique, bien sûr. Les gnostiques parlaient du plérum, cette plénitude divine dont l'âme humaine s'est trouvée séparée par une chute cosmique. Les alchimistes évoquaient, et évoquent d'ailleurs toujours, l'œuf philosophal, cette matière première contenant en germe toutes les potentialités, état d'indifférenciation d'avant la séparation des contraires. Nerval transpose cette quête métaphysique dans sa propre expérience existentielle. Sa vie fut marquée par des blessures profondes, la mort précoce de sa mère, les amours impossibles, les crises de mélancolie qui le plongeaient dans des abîmes de souffrance réelle. Mais plutôt que de se résigner au morcellement, il fait de sa douleur une matière première pour l'œuvre alchimique. La souffrance devient le plomb vil que le poète alchimiste doit transmuter en or spirituel. Chaque épreuve, chaque descente dans les ténèbres de la psyché constitue une phase nécessaire du processus initiatique. Cette vision trouve une résonance particulière dans le mythe d'Orphée, figure tutélaire pour Nerval. Orphée descend aux enfers pour retrouver Eurydice perdue, comme l'alchimie descend dans les profondeurs de la matière pour en extraire la lumière cachée. Le poète, tel Orphée, possède le pouvoir de charmer les puissances souterraines par son chant. Il peut, par la magie de sa lyre, c'est-à-dire par la puissance du verbe poétique, franchir les frontières entre les mondes, communiquer avec les morts, ramener à la lumière ce qui gisait dans l'oubli. Mais Nerval sait aussi qu'Orphée échoue dans sa tentative. Il se retourne trop tôt, enfreignant l'interdit divin, et perd définitivement Eurydice. Cette dimension tragique du mythe n'échappe pas au poète. L'unité ne peut être pleinement reconquise dans ce monde. Elle demeure un horizon, une promesse, une sorte d'étoile lointaine vers laquelle tendre sans jamais l'atteindre complètement. Pourtant, cette impossibilité même donne son prix à la quête. C'est précisément parce que l'absolu nous échappe que sa poursuite confère sens et noblesse à l'existence humaine. Les alchimistes décrivaient traditionnellement leur art selon une succession d'étapes, chacune correspondant à une couleur symbolique. L'œuvre noire représente la phase de putréfaction, la dissolution de mort symbolique. L'œuvre blanc signifie la purification, le passage par le feu qui consume les scories. L'œuvre rouge couronne le processus par l'apparition de la pierre philosophale, principe de perfection et d'immortalité. Cette trilogie alchimique structure souterrainement l'univers poétique de Nerval. Ses textes les plus sombres, imprégnés de mélancolie saturnienne, relève de l'œuvre noire. On y voit un être aux prises avec ses démons intérieurs, confronté à l'absurdité apparente du monde, plongé dans une nuit où tous les repères vacillent. Les célèbres crises de folie que Nerval traversa constituent, dans cette perspective, non pas de simples accidents pathologiques, mais des moments d'une initiation douloureuse, des épreuves nécessaires à la transformation. Car la folie nervalienne, contrairement aux apparences, n'était pas dépourvue de méthode ni de sens. Dans ces périodes de crise, Nerval accédait à des états de conscience modifiés où la frontière entre rêve et réalité, entre passé et présent, entre vie et mort, se dissolvait. Il voyait des correspondances cachées, percevait des synchronicités mystérieuses, entrait en communication avec des entités invisibles. Expérience terrifiante, certes, mais aussi révélatrice, comme les chamans traversant l'épreuve initiatique de la maladie sacrée, Nerval revenait de ses voyages aux frontières de la psyché avec une connaissance accrue, une sensibilité affinée aux dimensions subtiles du réel. L'œuvre au blanc se manifeste dans les moments de grâce poétique, où le langage atteint une pureté cristalline. Certains de ses sonnets, notamment dans les chimères, possèdent cette qualité de pierre précieuse, parfaitement taillée, transparente et lumineuse. Chaque mot y est pesé, comme dans un creuset. Chaque image, distillée pour en extraire l'essence. La langue devient alors un instrument de précision alchimique capable de capter et de retenir les intuitions les plus fugaces, les visions les plus évanescentes. Quant à l'œuvre rouge, elle transparaît dans les textes où Nerval célèbre l'amour, la beauté, l'harmonie universelle. Non pas un amour sentimental et superficiel, mais l'amour avec majuscule, force cosmique de réunification, héros platonicien, qui aspire au retour vers l'un. La femme, dans sa poésie, n'est jamais simplement une personne particulière, elle devient archétype, incarnation de l'éternel féminin, Sophia divine, Isis, dans la révélation, constitue le but ultime de la quête initiatique. L'œuvre de Nerval regorge de symboles directement empruntés au vocabulaire alchimique. Le feu, élément purificateur par excellence, traverse ses poèmes sous mille formes. C'est le feu prométhéen de la connaissance interdite. Le feu héraclitéen qui consume et régénère perpétuellement le monde. Et le feu secret qui couve au cœur de la matière en attente de libération. L'eau joue également un rôle capital. Eau lustrale, des ablutions rituelles, eau primordiale de la genèse, eau mercuriale de la dissolution alchimique. Chez Nerval, les fontaines, les lacs, les rivières ne sont jamais de simples décors. Ils symbolisent les profondeurs de l'inconscient, les nappes souterraines de la mémoire collective, les flux vivants de l'âme. Se pencher sur l'eau, c'est contempler son propre reflet, mais aussi entrevoir, par-delà sa propre image, les abîmes vertigineux de l'être. Les métaux précieux apparaissent fréquemment. L'or, bien sûr, non comme un métal vulgaire, mais comme symbole solaire de la perfection spirituelle. L'argent, métal lunaire, associé à la féminité, au mystère nocturne, à la lumière réfléchie qui guide le voyageur dans l'obscurité. Le cuivre de Vénus, le feu de Mars, le plomb saturnien, tous ces matériaux alchimiques trouvent leur transposition poétique dans un système de correspondance où chaque élément matériel renvoie à une réalité psychique et spirituelle. Les couleurs elles-mêmes deviennent des clés herméneutiques. Le noir de la mélancolie saturnienne, le blanc de la pureté virginale, le rouge de la passion et de la vie ardente, mais aussi des couleurs plus subtiles, le vert de l'émeraude d'Hermès, pierre d'immortalité, le bleu céleste de l'azur inaccessible, le pourpre royal de la dignité spirituelle reconquise. Les nombres sacrés structurent secrètement ces textes. Le 3 de la trinité alchimique, corps, âme, esprit, le 4 des éléments, le 7 des planètes et également des étapes de l'œuvre, le 12 du zodiaque et du cycle complet. Les chimères comptent justement 12 sonnets, ce qui n'est évidemment pas un hasard. Chaque sonnet correspond à une maison zodiacale, une phase de la grande année cosmique, un moment du processus de régénération spirituelle. Si l'alchimie vise à transmuter le plomb en or, la poésie nervalienne cherche à opérer une transmutation analogue sur le langage lui-même. Les mots de la langue ordinaire, usés par l'usage quotidien, vidés de leur substance, constituent le plomb vil du langage. Le poète alchimiste doit les régénérer, leur rendre leur puissance originelle, leur faire retrouver leurs vertus magiques. Pour ce faire, Nerval emploie plusieurs opérations alchimiques transposées dans l'ordre du verbe. D'abord, la solution, dissolution des significations conventionnelles. Il arrache les mots à leur contexte habituel, brise leur association automatique et les plonge dans un bain de mercure poétique qui dessoue les croûtes sémantiques accumulées. Un mot banal, soudain déplacé, conjugué avec un terme inattendu, révèle des profondeurs totalement insoupçonnées. Ensuite, la coagulation, cristallisation de nouvelles significations par des rapprochements audacieux, des métaphores inouïes, des condensations symboliques. Il précipite de nouveaux composés linguistiques. Ces nouvelles combinaisons ne sont bien sûr pas arbitraires. Elles suivent les lois secrètes des correspondances universelles. Elles font résonner les harmoniques cachées. Quand Nerval écrit « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé », chaque terme résonne avec les autres selon des rapports mystérieux, créant un alliage verbal d'une densité exceptionnelle. La sublimatio, élévation du matériel vers le spirituel, caractérise aussi sa démarche. Les objets concrets de l'expérience sensible ne sont jamais décrits pour eux-mêmes. Ils servent de support à l'envol vers des réalités supérieures. Une fleur n'est pas seulement une fleur, mais le symbole de l'âme s'épanouissant vers la lumière. Un astre n'est pas seulement un corps céleste, mais l'incarnation d'une intelligence cosmique. Par cette sublimation constante, le poème devient véhicule d'ascension spirituelle. La conjunctio oppositorum, union des contraires, principe cardinal de l'alchimie, gouverne également la syntaxe nervalienne. Jour et nuit, vie et mort, joie et souffrance, masculin et féminin, conscient et inconscient, tous ces pôles opposés que la pensée ordinaire sépare, se trouvent tout d'un coup réunis dans l'espace du poème. Cette coïncidence des contraires que Nicolas de Cus plaçait au fondement de la théologie négative devient chez Nerval un principe esthétique. La beauté naît précisément de cette tension maintenue entre des forces antagonistes, de cet équilibre instable où les opposés se conjuguent sans jamais se détruire. Un aspect essentiel de l'alchimie nervalienne concerne le rapport au temps et à la mémoire. L'alchimie traditionnelle n'est pas seulement transformation de la matière, mais aussi une traversée du temps. Les alchimistes prétendaient accélérer les processus naturels, accomplir en quelques mois ce que la nature met des millénaires à réaliser. Ils manipulaient le temps lui-même, accédant à une temporalité supérieure. Nerval transpose cette dimension dans sa poétique de la mémoire. Pour lui, le temps linéaire de l'histoire n'épuise pas la réalité temporelle. Il existe une autre temporalité circulaire, mythique ou passé, présent et futur, coexistent. Les événements ne disparaissent pas vraiment, jamais. Ils persistent dans une mémoire cosmique universelle. Dans ce que Jung appellera plus tard l'inconscient collectif, vous en avez certainement déjà entendu parler. Le poète possède cette faculté rare d'accéder à ces strates profondes de la mémoire. Cette conception se rattache à la théorie platonicienne de l'anamnèse, la réminiscence. Connaître pour Platon, ce n'est pas acquérir du nouveau, mais se ressouvenir de vérités que l'âme contemplait avant son incarnation terrestre. Nerval fait sienne cette idée. Ces moments d'inspiration ne sont pas création ex nihilo, mais résurgence de savoirs ancestraux enfouis. Quand il décrit, il ne compose pas artificiellement, il laisse remonter à la surface ce qui dormait dans les profondeurs. D'où cette sensation étrange que procure sa poésie. Comme si elle nous était déjà familière, comme si nous l'avions toujours connue sans le savoir. Ces images, ces rythmes, ces symboles éveillent en nous des échos immémoriaux. Ils parlent à quelque chose en nous qui précède notre histoire individuelle, qui nous relie aux sagesses antiques, aux mythes fondateurs, aux archétypes universels de l'humanité. Cette mémoire cosmique n'est pas abstraite. Elle s'incarne dans les lieux, les monuments, les œuvres d'art du passé. Les voyages de Nerval en Orient, en Italie, en Germanie, ne sont pas du tourisme. Ce sont des pèlerinages initiatiques vers les hauts lieux de la mémoire humaine. À Pompéi, il ne voit pas des ruines mortes, mais des vestiges encore animés par les âmes qui les habitèrent. Au Caire, il perçoit la présence vivante des mystères isiaques, des rituels secrets célébrés dans les temples aujourd'hui engloutis sous le sable. Cette capacité à franchir les barrières temporelles, à dialoguer avec les morts, à faire revivre les époques disparues, relève d'une forme de nécromancie poétique. Nécromancie non pas au sens vulgaire d'une évocation de spectre, mais au sens noble d'une communication avec les esprits des générations passées, avec la sagesse accumulée par l'humanité au fil des âges. Dans l'alchimie spirituelle, le féminin occupe une place centrale. La matière première, prima materia, est souvent figurée justement comme une femme. La terre noire et fertile d'où tout provient et où tout retourne. La Sophia divine, sagesse éternelle, prend visage de femme. La lune, astre féminin, guide les opérations nocturnes de l'art. Chez Nerval, cette dimension atteint une intensité vraiment particulière. Toute sa quête poétique et spirituelle se cristallise autour de figures féminines idéalisées. Il ne s'agit pas de simples amours terrestres, même si elles ont pu servir de point de départ, très certainement. Ces femmes deviennent des médiatrices entre le visible et l'invisible, des hiérophantes, conduisant l'initié vers les mystères supérieurs. Jenny Colon, l'actrice qui l'aima sans retour, se transfigure en archétype. Elle devient Aurélia, l'ange conducteur qui apparaît dans les rêves et dans les visions. Elle est Isis, dont le voile doit être levé. Marie, réconciliant terre et ciel. Béatrice, guidant le poète à travers les sphères célestes. Dans cette alchimie du sentiment, l'échec amoureux terrestre se transmute en réussite spirituelle. L'impossible union charnelle se sublime en communion mystique. Cette vision s'enracine dans la tradition de l'amour courtois médiéval, elle-même imprégnée d'ailleurs très largement d'hermétisme. Les troubadours chantaient la dame inaccessible, non par masochisme, mais parce que cette inaccessibilité même forçait le désir à s'élever, à se spiritualiser. L'obstacle devient moyen de transformation, l'interdit révèle sa fonction initiatique, il oblige l'amant à dépasser le plan des satisfactions immédiates pour atteindre un amour plus haut, plus pur, plus vrai. Nerval réactualise cette tradition à la lumière de son expérience personnelle et de ses connaissances ésotériques. La femme aimée devient le symbole de l'âme elle-même, l'anima jungienne. Cette part féminine de la psyché masculine qui doit être intégrée pour atteindre la totalité. La quête de la bien-aimée se confond avec la quête de soi, avec le processus d'individuation, avec la réalisation du soi, avec un S majuscule, supérieur. L'alchimie accorde également une importance considérable aux rêves et aux visions. Dans l'état de sommeil, l'âme se détache partiellement du corps et peut accéder à des plans de réalité ordinairement voilés. Les alchimistes consignaient leurs rêves y cherchant des indications sur la conduite de leur œuvre. Les visions leur révélaient la nature véritable des substances, les opérations à accomplir, les dangers à éviter. Nerval fait du rêve un territoire privilégié de son exploration poétique. Mais il ne distingue pas nettement rêve et réalité, sommeil et veille. Pour lui, ce que nous appelons la réalité n'est peut-être qu'un rêve d'une autre espèce. Et ce que nous appelons rêve pourrait être une réalité d'un autre ordre. Les frontières sont poreuses, les passages possibles, et le poète circule librement entre ces différents états de conscience, ramenant de ses voyages oniriques des trésors de connaissances et de beauté. Cette poétique du rêve atteint son apogée dans Aurélia. Ce texte inclassable, à la fois récit autobiographique, journal de vision et traité d'alchimie spirituelle. Nerval y raconte ses descentes dans la folie, ses séjours dans les maisons de santé, mais il en fait le récit d'une initiation mystique. Les hallucinations deviennent des révélations, les délires des illuminations. Il visite les enfers de sa propre psyché comme Orphée descendit aux enfers de la mythologie. Dans ces espaces oniriques, les lois de la physique ordinaire ne s'appliquent plus. Le temps se dilate ou se contracte. L'espace devient fluide, malléable. Les morts côtoient les vivants. Les différentes époques de l'histoire se superposent. Les mythologies de tous les peuples se mêlent et se répondent. C'est un chaos apparent, mais un chaos que je pense être fécond. Une matière première, riche de toutes les potentialités, une sorte de prima materia psychique que le poète alchimiste doit ordonner et transmuter. Cette expérience périlleuse n'est pas recherchée pour elle-même, par goût morbide du vertige. Elle répond à une nécessité intérieure. Nerval pressentait que quelque chose en lui devait mourir pour qu'autre chose puisse naître. La folie, dans cette perspective, constitue moins une maladie qu'une crise de croissance de l'âme. Un passage obligé vers un état supérieur de conscience. Dangereux, certes, car on peut y perdre la raison ou la vie, mais indispensable pour celui qui aspire à la connaissance intégrale. Écrire pour Nerval n'était jamais un acte anodin. Chaque poème constituait une opération magique, un rituel où s'invoquaient des forces invisibles. Cette conception rejoint celle des kabbalistes juifs, pour qui les lettres de l'alphabet hébreu, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sont pas de simples signes conventionnels, mais des entités vivantes, des anges porteurs de puissance divine. Combiner les lettres, c'est agir sur la réalité elle-même, participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Sans aller jusqu'à l'extrême de cette magie verbale, Nerval attribuait au langage poétique une efficacité réelle. Le poème ne se contente pas de décrire ou d'exprimer, il accomplit, il transforme, il crée. Quand le poète nomme une chose avec justesse, il ne se borne pas à coller une étiquette sur une réalité préexistante. Il fait advenir cette chose dans sa vérité profonde. Il la révèle à elle-même. Il l'arrache au néant de l'insignifiance pour la faire exister pleinement. Cette théurgie poétique exige des conditions précises. D'abord, la purification intérieure. Le poète doit se préparer comme le prêtre avant le sacrifice, comme l'alchimiste avant d'allumer son fourneau. Il doit se dépouiller de ses préoccupations égoïstes, faire silence en lui, créer un espace de réceptivité. L'inspiration n'est pas production volontaire, mais réception d'un don. Le poète est un médium. Un canal par lequel transitent des énergies supérieures. Ensuite, le choix du moment propice. Certaines heures, certains lieux favorisent l'opération. La nuit plutôt que le jour. Car la nuit abolit les certitudes diurnes et ouvre au mystère. Les lieux chargés de mémoire, imprégnés de présence ancienne, où le voile entre les mondes s'amincit. Les moments de crise existentielle, où les structures habituelles du moi vacillent, libérant des forces créatrices habituellement bridées. Enfin, l'attention extrême portée aux moindres détails. Comme l'alchimiste surveille la température de son creuset, observe les changements de couleur de sa matière, le poète pèse chaque mot, écoute chaque sonorité, calcule chaque rythme. Rien n'est laissé au hasard. Tout est signifiant. La forme n'est pas ornement superficiel, mais substance même du poème. Un vers boiteux, une rime approximative, une image incohérente suffisent à faire échouer totalement l'opération. L'alchimie enseigne que la perfection naît de l'union des opposés, soufre et mercure, soleil et lune, masculin et féminin, le fixe et le volatile. Tous ces couples antagonistes doivent être mariés dans les noces chimiques pour engendrer la pierre philosophale. Cette doctrine de la coïncidence des contraires traverse toute la mystique occidentale de Nicolas de Cus à Jacob Bohème. Nerval en fait le principe structurant de sa vision du monde. La vie et la mort ne s'opposent pas, elles s'entrelacent. Le bonheur et la souffrance se mêlent indissolublement. La raison et la folie communiquent par des passages secrets. Le réel et l'imaginaire se reflètent mutuellement comme deux miroirs face à face. Aucune synthèse définitive n'abolit ces tensions. Elles demeurent, mais leur conflit même devient source d'harmonie supérieure, comme dans une musique où la dissonance enrichit la consonance. Cette pensée du paradoxe traverse sa poésie sous forme d'oxymore, de paradoxe assumé, de mystère accepté. Il ne cherche pas à résoudre les contradictions par la logique, mais à les maintenir ensemble, à les faire coexister dans un équilibre dynamique. C'est une pensée du « et » plutôt que du « ou ». Une logique inclusive qui refuse les exclusions simplificatrices. Et à ce titre, puisqu'on en parle, je vous propose, quand vous aurez un petit peu de temps, de vous rendre sur voixpoétiques.com, vous cliquez sur la petite loupe qui se trouve, je crois, en haut sur la droite, et vous tapez « et », et vous verrez d'ailleurs mon poème, qui est dédié à ce mot et qui vient mettre en lumière ce que je viens tout juste de dire. Cette attitude trouve sa justification philosophique dans la tradition néoplatonicienne. Pour Plotin et ses disciples, l'un, transcendant, contient en puissance toute la multiplicité du monde. En descendant de l'un vers le multiple, par des émanations successives, la réalité se fragmente, se polarise, se divise. Mais cette division n'est pas irrémédiable. Un mouvement inverse de retour vers l'un est tout à fait possible. L'âme peut remonter les degrés de l'être, réintégrant progressivement ce qui s'était dispersé, cicatrisant les blessures de la séparation. La quête poétique et spirituelle de Nerval s'inscrit dans ce mouvement ascensionnel. Chaque poème est une tentative de réunification, un effort pour rassembler les fragments épars du monde et de soi-même. Il ne réussit jamais complètement, bien sûr. L'unité absolue demeure hors d'atteinte tant que l'âme reste incarnée. Mais ces échecs partiels n'invalident pas l'entreprise elle-même, au contraire, ils en attestent la nécessité. C'est parce que l'unité nous manque que nous la cherchons irrésistiblement. C'est parce que nous avons perdu le paradis que nous nous efforçons de le retrouver. L'influence de cette alchimie nervalienne se prolonge bien au-delà de son époque. Les symbolistes français, Baudelaire en tête, reconnaissent en lui un précurseur. La théorie des correspondances que Baudelaire développe dans son célèbre sonnet doit beaucoup à l'intuition nervalienne d'un langage secret de la nature. Mallarmé, quant à lui, pousse encore plus loin l'idée d'une magie verbale, d'une alchimie du verbe capable de créer un monde plus réel que le réel. Les surréalistes du XXIe siècle revendiquent aussi cet héritage, bien évidemment. André Breton, et là aussi je vous invite à vous rendre sur Voix Poétique, il existe un podcast sur André Breton, eh bien André Breton voit en Nerval un frère d'armes dans la lutte contre le rationalisme desséchant. L'exploration des rêves, la libération des forces de l'inconscient, la pratique de l'écriture automatique comme accès à un surréel, tout cela s'inscrit dans le sillage de l'aventure nervalienne. Certes, les surréalistes récusent les dimensions ésotériques explicites. Ils préfèrent invoquer Freud plutôt qu'Hermès Trismégiste. Mais au fond, la démarche reste apparentée. faire du poème un laboratoire de transformation de la conscience et un espace de liberté absolue où tout peut devenir possible. Plus près de nous, des penseurs comme Henri Corbin ont réhabilité l'imagination créatrice. Cette faculté que le rationalisme moderne avait dévalué au rang de fantaisie arbitraire. Pour Corbin, étudiant la philosophie islamique, l'imagination n'est pas le contraire de la réalité, mais un mode d'accès à des réalités d'un autre ordre, à un monde imaginal, aussi objectif que le monde matériel. Nerval, sans disposer de ce vocabulaire, avait pressenti cette vérité, ces visions n'étaient pas de pure hallucination subjective, mais des perceptions de réalité subtile d'un monde intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. Que peut nous apprendre aujourd'hui cette alchimie poétique nervalienne dans un monde dominé par la technique, l'efficacité immédiate, le consumérisme de masse ? Peut-être d'abord ceci, que l'être humain ne se réduit pas à sa dimension utilitaire et productive. Nous portons en nous des profondeurs insondables, des aspirations spirituelles irréductibles aux besoins matériels. Ignorer cette dimension, c'est se condamner à une existence tronquée, appauvrie, privée de sens. La quête alchimique et poétique de Nerval nous rappelle aussi que la transformation authentique exige temps, patience, persévérance. Nous vivons dans une civilisation de l'instantané, je le dis très souvent, où tout doit être immédiatement disponible et consommable et remplaçable, mais les réalités essentielles ne se laissent pas domestiquer si facilement. L'alchimiste passait des années à surveiller son fourneau avant d'apercevoir peut-être la pierre philosophale. Le poète consacre sa vie entière à perfectionner son art, sans jamais atteindre la plénitude de ce qu'il entrevoit. Cette acceptation de l'inachèvement, du cheminement sans fin, de la quête jamais aboutie, constitue une sagesse précieuse. Elle nous prémunit contre la tentation du fanatisme qui prétend posséder la vérité absolue, contre l'hybris technicienne qui croit pouvoir tout contrôler, contre le nihilisme qui décrète que rien n'a de sens. Entre ces termes, Nerval trace une voie médiane, celle d'une recherche humble et obstinée, consciente de ses limites, mais confiante dans la valeur de l'effort lui-même. Enfin, son exemple nous enseigne le courage. Courage de descendre dans ses propres abîmes, d'affronter ses démons intérieurs, de traverser ses nuits obscures. Courage de rester fidèle à sa vision malgré l'incompréhension générale, malgré les souffrances, malgré les échecs. Courage de faire de sa vulnérabilité même, de sa fragilité psychique, une source de connaissance et de beauté. Car c'est souvent aux endroits où nous sommes blessés que la lumière peut pénétrer. Je vous propose d'écouter maintenant un des plus beaux poèmes de Gérard de Nerval, qui s'appelle « Vert doré », et qui incarne magnifiquement cette vision alchimique d'un univers animé où toute chose possède une âme, et où l'harmonie universelle attend d'être perçue par celui qui sait regarder. Je vous en donne lecture. Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toute chose? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible. Et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même, un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent, dans l'être obscur habite un dieu caché. Et comme un œil naissant, couvert par sa paupière, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Eh bien voilà, nous voici parvenus au terme de ce voyage dans l'univers alchimique et poétique de Gérard de Nerval. Nous avons parcouru ensemble les méandres de sa quête initiatique et nous avons découvert comment sa connaissance des traditions ésotériques irriguait profondément son inspiration. Compris que pour lui, la poésie n'était pas un jeu formel, mais plutôt une authentique opération de transmutation spirituelle. Ce que Nerval nous lègue largement dépasse le cadre de la littérature. C'est une vision du monde où tout fait sens, où tout se correspond, où l'univers entier vibre d'une vie secrète. Vision enchantée, certes, mais pas naïve. Car Nerval connaissait aussi les abîmes, les ténèbres, les souffrances. Sa lumière ne fut pas celle de l'innocence préservée, mais celle qui naît au cœur même de la nuit traversée. Alors j'espère que son exemple vous inspirera dans vos propres cheminements. Et puissions-nous tous ensemble, à notre mesure et selon nos moyens, cultiver cette attention au mystère qui nous environne, cette ouverture aux dimensions invisibles du réel, cette foi en la possibilité d'une transmutation de notre être. Non pas pour fuir le monde concret et ses exigences, mais plutôt pour l'habiter plus intensément, plus consciemment et surtout plus poétiquement. Car la véritable alchimie ne se pratique pas dans des laboratoires secrets. Elle s'accomplit dans le creuset de notre existence quotidienne, à travers nos joies et nos peines, nos rencontres et nos solitudes, nos espoirs et nos désillusions. Chaque instant offre l'occasion d'une transformation, pour peu que nous sachions y être présents avec cette qualité d'attention que les alchimistes appelaient vigilantia, la vigilance du cœur et de l'esprit. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.